Culture et patrimoine. Aujourd'hui, objets et collectionneurs, présenté par Bruno Iret.
Nous nous retrouvons dans l'émission Art, Culture et patrimoine en compagnie de Guy de Brasse pour évoquer sa passion pour la flûte à bec. Bonjour Guy de Brasse.
Bonjour Bruno.
Alors, vous êtes arrivé dans les bagages de François Daubert afin d'être son chef de cabinet, il y a déjà combien d'années ?
25 ans.
25
ça ne rajeunit pas.
Ça ne rajeunit pas. Et depuis lors, malgré une importante carrière professionnelle à Paris, vous n'avez plus jamais quitté la plus belle ville du monde. Pas Paris, bien sûr, Laval.
Tout à fait. Je suis un Lavallois de cœur.
Bon. Et... Au-delà de votre travail, je ne vous ai pas invité pour parler de votre travail qui est très dense, mais pour votre passion principale, qui est la flûte à bec, mais aussi la musique ancienne. Alors comment en êtes-vous arrivé là ?
Eh ben, c'est très simple. Quand j'étais tout jeune enfant, je faisais un petit peu de flûte à bec, comme tous les enfants, à l'école. Et puis, dans ma famille, on m'a dit « bon, ça serait bien que tu fasses un instrument un peu plus sérieux ». Donc, je me suis mis au violon. J'ai fait du violon pendant 4 années. Le violon, c'est un instrument très beau, mais très difficile. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai continué à travailler la flûte à bec et j'ai progressé. Et j'ai découvert que cet instrument, qui au départ semble assez facile, est en vérité un instrument qui a sa difficulté, qui a ses qualités. Et j'ai vraiment eu une passion qui est arrivée. Je suis tombé amoureux de cet instrument dans toutes ses formes. Et j'ai surtout découvert le répertoire absolument gigantesque qui s'étend depuis la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique contemporaine de cette flûte à bec dans toutes ses formes, puisque on connaît la flûte soprano qu'on apprenait pour ceux qui sont les plus anciens à l'école, puisque je crois que maintenant on ne fait plus de flûte à bec à l'école. Mais en tout état de cause, il y a des dizaines d'autres types de flûte à bec et c'est vraiment un instrument d'une très très grande richesse. J'ai l'habitude d'ailleurs de dire que c'est presque comme l'orgue, simplement que chaque tuyau a un instrumentiste avec ses 10 doigts qui peut en jouer.
Oui, et vous aviez une formation musicale avant.
Alors, j'ai eu une formation musicale de base hein, que j'ai fait dans le cadre de mes études musicales et puis à l'école. Je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne professeure de musique au collège qui m'a passionné. Puis ensuite, j'ai fait des stages d'abord au niveau national français et puis ensuite au niveau international. Et j'ai joué pendant des années, mes années de jeunesse, avec des camarades qui avaient la même passion que moi et qui d'ailleurs, pour la plupart, sont devenus des professionnels, voire même de très grands professionnels internationaux.
Alors, vous jouiez en solitaire, si j'ose dire, ou en formation ?
Alors, la flûte à bec, elle peut être jouée, bien évidemment, en solo. C'est quand même, malgré tout, un instrument qui est fait pour jouer avec d'autres instruments. Alors, soit on joue de la flûte à bec avec des instruments d'accompagnement, ce que l'on appelle la basse continue, viol de gambe, violoncelle, clavecin, luth. Et d'ailleurs, il y a aussi d'excellents luthistes ici sur la Mayenne. Je pense à mon ami Jean-Marie Poirier. Mais c'est aussi un instrument qui est très adapté au fait de jouer en ensemble, donc avec des flûtes à bec de tailles différentes. On aura l'occasion tout à l'heure d'entendre un morceau de Henry Purcell qui est interprété par 3 flûtes à bec de la même taille, mais où on voit que effectivement ça se marie très bien quand elles jouent ensemble. Et donc très rapidement, j'ai fait de la musique d'ensemble. Et aujourd'hui encore, je participe à la classe de flûte à bec 3e cycle du Conservatoire de Bourg-la-Reine, puisque je travaille sur Paris, donc j'ai de temps en temps des libertés pour pouvoir au moins une fois par semaine faire de la musique avec mes amis du conservatoire. Alors, pas en ce moment, évidemment, avec le confinement et avec la crise sanitaire, mais j'espère que ça pourra reprendre le plus rapidement possible. Et nous jouons principalement de la musique de la Renaissance, parce que cette musique qui s'étend grosso modo de 1500 jusqu'à 1600, je dirais même 1450 à 1620, est une musique qui est très adaptée pour la flûte à bec. Et c'est une période là, qui est l'âge d'or de la flûte à bec où les compositeurs ont fait le plus appel à cet instrument.
C'est un instrument très simple de fabrication. Est-ce que c'est vraiment le plus vieil instrument musique ?
Oui, on peut considérer que la flûte est le plus vieil instrument parce qu'il existait avant même que l'humanité n'existe, puisque tout simplement, quand vous faites passer un filet d'air dans des roseaux, eh ben, ça fait vibrer les roseaux et ça fait du son. On le sent parfois quand on est dans la campagne, au milieu des roseaux. Et c'est tout simplement la lame d'air qui se divise au contact de la feuille de roseau ou du tuyau que constitue la tige du roseau. Et donc, finalement, la flûte, ça n'est qu'une tige de roseau que l'on a coupée, que l'on a évidée, une sorte de bambou en quelque sorte, et sur lequel on a pratiqué une petite fente de manière à ce qu'avec le souffle, avec les lèvres, on puisse diriger un souffle d'air qui, en se divisant sur cette fente, va provoquer une vibration et va provoquer un son. Alors, à la base, c'est très simple comme instrument, mais quand on arrive dans les instruments que nous pratiquons, qui sont des instruments de la Renaissance ou de l'époque baroque, ça devient quand même beaucoup plus complexe à fabriquer.
Oui, parce qu'à l'origine, c'était fait dans du roseau, dans un os, dans...
Alors, c'était fait, oui, tout à fait, dans toutes sortes de matériaux, des flûtes en os, des flûtes dans toutes sortes de bois. Aujourd'hui, et en tout cas depuis l'époque Renaissance, le bois qui est le plus utilisé, en fait, pour les flûtes à bec, c'est un bois très dur, mais qui est très, très intéressant en termes acoustiques, c'est le buis.
Ah donc, oui, le buis.
C'est un arbre qu'on trouve vraiment partout autour de nous.
Et que l'on utilise d'ailleurs dans l'ébénisterie, forcément.
C'est un bois très dense.
Cette première flûte, c'est ce qu'on appelait aussi sifflet, je crois, au tout début, elle était dans un morceau simple. Aujourd'hui, il y a quand même quelques pièces. Il y a le bec, il y a...
Alors voilà, il y a trois... Alors ça dépend, parce que les flûtes Renaissance sont encore faites en une seule partie. Mais d'abord, il faut savoir que la perce à l'intérieur, donc le trou que l'on fait au milieu du bois pour que le son puisse passer, n'est pas cylindrique, elle est conique, elle est large en haut et plus fine à la sortie en bas. Ensuite, on perce des trous d'une dimension très particulière et à une place très particulière sur ce bois. Ensuite, on évide la tête, effectivement. Et là, on met ce que l'on appelle un bouchon qui va permettre de conduire l'air jusqu'à la fente, que là aussi, on fabrique à la main. Ce sont des instruments qui, maintenant, dans la plupart des cas, sont fabriqués à la main par des artisans.
Oui. Et est-ce que ça vaut cher, une flûte à bec ?
Alors, tout dépend. C'est-à-dire que si on parle de la flûte à bec en plastique de marque japonaise,
Yamaha,
bien connue, voilà, Yamaha, vous savez, c'est une marque au départ d'instruments de musique. Hein. Quand on regarde sur les motos, c'est trois diapasons croisés. C'est principalement une marque d'instruments de musique.
Oui,
Yamaha.
Il y a beaucoup de pianos de cette
pianos,
marque-là.
Des pianos, des flûtes, des clarinettes, des hautbois et des flûtes à bec. Alors, en plastique, donc ça coûte quelques dizaines d'euros maximum. Mais quand on arrive à des instruments qui sont fabriqués en semi-série, on est déjà à plusieurs centaines d'euros. Et quand on arrive sur des instruments qui sont des instruments vraiment copie d'époque, fabriqués à la main, ça peut être plusieurs milliers d'euros.
Oui.
Et puis, de temps en temps, mais c'est assez rare, on a des instruments qui sont, eux, des instruments originaux qui n'ont pas bougé depuis l'époque baroque.
Oui, alors est-ce que c'est comme pour un violon ou un Stradivarius, pour donner un nom connu, est-ce qu'il est important de jouer sur une vieille flûte de marque connue, très chère ?
Alors, non. La vieille flûte qui est dans le musée et que l'on va prendre pour jouer un morceau de musique, elle va donner un son qui est très intéressant, qui est très agréable, mais que nous n'apprécions pas particulièrement, nous, les flûtistes à bec, parce que, en fait, le bois, il a vieilli 200 ans. Donc, il n'est pas exactement dans les conditions qu'avaient les instrumentistes et les compositeurs qui ont composé pour cet instrument. Ce qui nous intéresse plus, c'est d'avoir des instruments qui sont des copies parfaites de cet instrument, mais avec du bois plus récent, qui nous permet de retrouver, on le pense en tout cas, un son qui est très proche du son que l'on avait à l'époque où ces instruments ont été fabriqués pour la première fois.
C'est ce qui explique qu'on ne voit jamais des grandes ventes de flûtes à bec à
non.
plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme on voit pour un violon,
oui.
voire pour des guitares maintenant.
Au passage, il faut savoir quand même une chose, c'est que pour les violons, quand on est passé du violon baroque qui avait des cordes en boyau à des violons avec des cordes en métal pour sonner plus fort, on a dû transformer ces violons. Et donc, même le Stradivarius, le plus onéreux existant sur la planète, n'est pas exactement le Stradivarius que Stradivarius a fabriqué au XVIIe siècle.
Bon, comment s'appelle la personne qui fait une flûte à bec?
Alors, quand on parle d'un violon, on parle d'un luthier, ou quand on parle d'une guitare, on parle d'un luthier. Pour les flûtes à bec, ça s'appelle des facteurs de flûte à bec. Pour les instruments avant, on parle de facteurs d'instruments.
C'est ce qui vous rapproche encore une fois de l'orgue, des orgues. On dit aussi des
complètement
facteurs.
Complètement, facteurs d'orgue. C'est aussi de l'air qui est envoyé sur un biseau. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on a un ensemble de 4 ou 5 flûtes à bec, on a à peu près le même répertoire et la même dextérité possible qu'avec un orgue.
Oui, j'ai été surpris, vous m'avez prêté des films, de voir ces grandes flûtes à bec qui font plus de 2 mètres de haut. Qui sont un peu comme les orgues de la cathédrale de Paris, enfin les tuyaux.
Alors, la flûte à bec, ça va de la plus petite flûte à bec qui s'appelle l'exilante, qui va faire 15 cm de haut, qui est une flûte très aiguë, jusqu'à la contrebasse en fa, qui est une flûte à bec effectivement qui fait 2 mètres de haut.
Donc vous pouvez jouer à plusieurs flûtes à bec.
Voilà, en général, on joue en quatuor. Mais on peut aller à 5, 6, 7, il y a même des compositions pour 40 flûtes à bec. Et les vidéos dont vous parlez sont des vidéos qui ont été faites par un ensemble qui s'appelle le Royal Wind Instrument, qui est un ensemble hollandais dont on trouve très facilement les vidéos sur YouTube. Et ces vidéos montrent qu'ils jouent à 13, en fait, avec des flûtes à bec de toutes dimensions. Et d'ailleurs, à noter, parce que c'est quand même assez rare de le noter, le monde de la flûte à bec est un monde où il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce milieu-là. Et vous aurez pu le constater sur les vidéos, les ensembles de flûte à bec sont principalement constitués de femmes.
Bon, après tout ce que vous m'avez dit, Guy Lebras, j'ai envie d'écouter un morceau de flûte à bec. Qu'est-ce que vous me proposez ?
Alors, on ne va pas passer un morceau de musique Renaissance parce que j'avais une petite contrainte de temps que vous m'aviez donnée. On va écouter un morceau qui date du XVIIe siècle, fin XVIIe siècle. C'est un compositeur anglais extrêmement connu, c'est le plus connu. C'est Henry Purcell. C'est une danse, c'est une chaconne. Et elle a été composée pour trois flûtes à bec et basse continue. Donc la basse continue, c'est un violoncelle et un clavecin. Et vous allez voir, ce sont trois flûtes à bec alto, donc de taille moyenne, qui jouent trois parties différentes, qui se marient très bien ensemble. Et vous allez voir que c'est de la très belle musique.
Voilà, nous retrouvons Guy Lebras pour cette deuxième partie consacrée à sa grande passion, la flûte à bec. Nous avons écouté un très bon morceau, mais je crois que l'interprète est aussi important.
Complètement, parce que cette musique, cet enregistrement est assez ancien, il date des années 70. C'est un enregistrement qui a été fait par Franz Brüggen et ses deux élèves, Walter von Nau et Chris Buke. Franz Brüggen a été le véritable redécouvreur de cet instrument dans les années 50, après Arnold Dolmetsch qui lui était plutôt dans les années 20-30. Et Franz Brüggen a véritablement monté au plus haut niveau de connaissance internationale, de renommée internationale, la flûte à bec, jusque dans les années, je dirais à l'orée des années 2000, où il a changé complètement de carrière. Il est devenu chef d'orchestre et ça a été un des plus grands chefs d'orchestre pour la musique baroque et la musique classique. Donc de l'époque de Mozart, hollandais des années 2000. Il est décédé il y a quelques années, mais nous considérons, nous les Futis Abeck, que ça a été véritablement notre mentor, hein, parce qu'il a véritablement fait beaucoup pour cet instrument et pour la redécouverte de cet instrument.
Alors, la grande période quand même de la flûte à bec, c'est l'époque médiévale, c'est la Renaissance.
Alors, médiévale, Renaissance. Alors ensuite, il y a l'époque baroque qui commence avec Claudio Monteverdi dans les années 1610 et dont on considère qu'elle se termine avec la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750. Pendant cette période-là, la flûte à bec est un instrument qui est très utilisé par les compositeurs, plus que la flûte traversière, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'elle a une sonorité qui est très adaptée à cette musique. Et surtout, c'est un instrument qui est associé à la joie, au mariage, aux événements heureux de la vie. Et donc, Claudio Monteverdi, notamment, l'utilise beaucoup dans ses opéras et dans ses oratorios pour manifester effectivement les moments de joie. La flûte traversière, elle est moins développée et elle va progressivement se développer, se perfectionner. Et au début de l'époque baroque, eh ben, elle va être très utilisée par les compositeurs du début du XVIIIe siècle. Et progressivement, elle va prendre le dessus sur la flûte à bec à partir des années 1750.
Ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, la flûte à bec tombe un peu en désuétude.
La flûte à bec tombe un peu en désuétude, je dirais, à partir de l'époque des années 1720. Jean-Sébastien Bach l'utilise encore pas mal dans ses cantates, dans ses concertos.
Dans des musiques plus tristes, là.
Alors oui, parce que pour Bach, la flûte à bec est plutôt au contraire associée à la musique funéraire. Donc c'est plutôt associé à la mort. Donc on voit qu'il y a une évolution. Alors ça correspond aussi à la période où la flûte à bec tombe un peu en désuétude. Et l'époque où la flûte traversière va devenir de plus en plus importante. Mozart a beaucoup composé pour flûte traversière, il n'a pas composé particulièrement pour la flûte à bec.
Est-ce que c'est difficile de passer de la flûte à bec à la flûte traversière ?
Alors, de nombreux instrumentistes flûtistes à bec sont aussi instrumentistes sur un autre instrument. Certains font du hautbois, qui est assez proche en termes de tenue de l'instrument, mais qui est très compliqué du point de vue du souffle. Beaucoup font aussi de la flûte traversière. Alors, la flûte traversière baroque en bois a à peu près le même type de fabrication, avec une perce conique, avec des trous plutôt que des clés. Mais très rapidement, après donc l'époque classique, la flûte traversière devient une flûte en métal, avec tout un système de clés qui en simplifie le doigté et donc qui permettent de jouer plus vite, des choses plus véloces. Et donc de ce point de vue-là, et surtout d'avoir avec le côté métallique un son beaucoup plus puissant, ce qui fait que la flûte traversière a quasiment complètement supplanté la flûte à bec au XIXe siècle. Il y a quelques compositeurs au XIXe siècle. Mon ami Hugo Rennes, qui est un grand flûtiste à bec français, a fait un disque avec des musiques du XIXe siècle pour la flûte à bec, mais c'est quand même relativement anecdotique. Et c'est un instrument qui attendra les années 20 pour renaître, et les compositeurs contemporains vont s'y intéresser.
Oui, alors c'est peut-être parce que le piano était en vogue au XVIIIe siècle et donc le bruit était plus important que celui de la flûte à bec.
Alors, effectivement, on peut comparer l'évolution de la flûte à bec à celle du clavecin. Le clavecin est aussi tombé en désuétude à partir de l'époque classique, puisqu'on remplace d'abord par le piano forte, puis ensuite par le piano tel qu'on le connaît. La flûte n'est pas très adaptée, si je puis dire, à la musique avec piano, parce qu'il y a une très très grande différence effectivement de volume sonore. Néanmoins, dans certaines œuvres contemporaines, on peut malgré tout trouver des choses intéressantes pour flûte et piano.
Qu'est-ce que c'est que la flûte de Pan ?
Alors la flûte de Pan, c'est un instrument qui est tout à fait différent. C'est un instrument où là, on va prendre des tuyaux de bambou et on va les relier entre eux et on va mettre ces tuyaux d'une taille différente. Donc, ils vont chacun faire un son différent. Et on va le jouer tout simplement, plutôt que de bouger les doigts, on va changer de tuyau. Et c'est un instrument qui s'est beaucoup développé dans la musique folklorique, notamment dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, le plus grand joueur de flûte de pan, enfin, je vais citer deux noms, c'est Georges Zamfir ou Stimon Stansiu, qui, en fait, font de la musique à la base folklorique, mais qui se sont essayés à faire aussi des adaptations de musique plus classique. La transcription n'est pas du tout choquante, c'est quelque chose que l'on pratique beaucoup dans le domaine de la flûte à bec et parfois, par exemple, Arcangelo Corelli, à l'époque baroque, a composé des sonates pour violon qui ont toutes été transcrites à l'époque même de Corelli pour la flûte à bec.
Et vous jouez de la flûte de pan ?
Je ne joue pas de flûte de pan, non. Je joue de la flûte traversière, je joue évidemment de la flûte à bec, mais pas de flûte de pan.
Et
j'aime beaucoup.
Vous aviez un groupe avec Madame Guillère, avec Monsieur Habert.
Alors, ce groupe existe toujours, La Folia Fantasia, effectivement, autour de Marie-Hélène Guillère. Alors, c'est ce qu'on appelle, je dirais, le broken consort. C'est-à-dire, la flûte à bec, là, elle est mélangée avec d'autres instruments, de la guitare, du violoncelle. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait adapté à cet instrument de mélanger et de faire ce que les Anglais appellent le consort brisé, le broken consort.
Bon. Ah, vous saviez le métier que j'avais. Est-ce qu'il y a eu de grands collectionneurs de flûte à bec ?
Complètement. Le plus grand collectionneur de flûte à bec que je connaisse, c'est Franz Brüggen. Il a récupéré beaucoup d'instruments et je sais qu'il a énormément fait pour le développement de la facture de flûte à bec. C'est lui qui a prêté des instruments à des facteurs pour qu'ils puissent en faire les copies. À une époque où on pouvait trouver des instruments originaux, pas chers, parce que tout simplement ça traînait dans les greniers et que personne ne s'y intéressait. Je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, c'est assez particulier, mais quand j'habitais dans une ville de la banlieue parisienne il y a quelques années, mon appartement a été cambriolé. J'avais toute ma collection de flûtes qui était là. Les cambrioleurs m'ont piqué mon ordinateur, ma tablette iPad, etc., etc. Et j'ai retrouvé toutes mes flûtes étalées sur le lit. Et ils n'ont pris absolument aucune de ces flûtes, alors que ce qu'il y avait de loin le plus précieux dans mon appartement, c'était ça.
Donc ça n'est pas un bon placement.
Non, ça n'est pas un bon placement, sauf pour ceux qui aiment et qui en sont spécialistes et qui pratiquent cet instrument.
Mais Henri VIII était collectionneur.
Alors Henri VIII, ça c'est quelque chose qui est peu connu, est un musicien très très accompli et il a composé beaucoup de musique pour flûte à bec. On dit qu'il avait la plus grande collection de flûte à bec du début du XVIe siècle. Et ça devait être tout à fait impressionnant. Si nos auditeurs sont intéressés par entendre des compositions d'Henri VIII, il y en a beaucoup qui sont disponibles et je citerai celle qui s'appelle Pastime with Good Company, qui est très facilement accessible sur les sites de vidéo.
Comme quoi les gens les moins sympathiques, parce que je pense qu'il a une vie un peu dure par moment, ont leur moment de calme.
Complètement.
Et se retrouvent autour de la musique.
Voilà, ils avaient sans doute besoin, après s'être écharpé toute la journée, de se retrouver le soir autour d'un peu de musique et d'adoucir leurs mœurs qui, certes, étaient quand même assez violentes.
Est-ce qu'on peut voir ces instruments dans des musées encore ?
Ouais. Complètement. Alors, aujourd'hui, chaque grand pays européen a son musée d'instruments de musique. Et le musée d'instruments de musique de Paris se trouve au conservatoire en fait, national, là près de la porte de Pantin, la Cité de la Musique.
Bon alors, surtout Guy Lebras, quand vous allez vous produire, il faut nous le dire.
Bien
on
sûr.
Va vous faire un peu de publicité à Radio Fidélité. Je sais que vous
avec
aimez
plaisir.
Jouer, vous jouez souvent déjà avec votre femme Marie, qui est flûtiste aussi.
Tout Mais à
est-ce
fait.
Que vous allez vous produire bientôt avec votre ensemble ?
Alors, je me produis déjà avec l'ensemble qui est le mien en région parisienne. Nous sommes déjà venus à Laval il y a quelques années à l'occasion d'un week-end de musique baroque que nous avions organisé qui s'appelait Baroque in Laval. Il ne tient qu'à ceux qui aiment la musique sur Laval de nous solliciter et on pourrait tout à fait revenir et effectivement jouer de la flûte à bec pour le plus grand plaisir des Lavallois.
Bon, pour terminer, j'ai coutume de demander quel est l'objet qui vous fait rêver, mais pas là. Je vous demandais quel est l'air, le morceau qui vous plaît le mieux.
Alors, le plus beau morceau pour la flûte à bec, il y en a beaucoup. Hein, donc, c'est très difficile de choisir un parmi d'autres. Mais moi, à titre personnel, je crois que c'est la cantate BWV 106 de Bach, Actus Tragicus, qui a une formation musique instrumentiste très simple. C'est deux flûtes à bec, deux viols de gambe et une basse continue, plus des chanteurs et un chœur. Je conseille à tous nos auditeurs d'écouter l'Actus Tragicus, la cantate BWV 106, Gottes Zeit ist die Zeit. Et c'est vraiment une œuvre absolument magnifique et qui, pour moi, me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute.
Bon, c'était très gentil de venir nous voir, Guy Debrasse.
Merci.
Merci beaucoup. À bientôt, toutes et tous, et pour une prochaine émission.